L'association Arts et Livres vous présente la fête du livre en Quai de Sorgue.
Interviews et lectures de textes sur Radio Saint-Aff.
La fête du livre en Quai de Sorgue, c'est dimanche. À partir de 10h.
Christian Serre, vous êtes un auteur prolifique et éclectique. Vous avez publié de nombreux ouvrages, des livres jeunesse, des romans, des polars, des essais. Et vous serez présent à la fête du livre en Quai de Sorgue à Saint-Affrique, dimanche 19 mai. Alors avant de parler de quelques-uns de vos livres, est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications biographiques vous concernant ?
Oui, bonjour, oui. Je suis né à Saint-Affrique. J'y ai passé toute mon enfance et l'adolescence. Et j'en suis parti, j'avais 16 ans. J'ai fait mes études à Saint-Jean-Baptiste de la Salle. C'est important aussi de le dire, puisque c'est une école qui, moi, à l'époque, avait une certaine importance et où j'ai croisé des copains. Et justement, à l'occasion du Salon du Livre, je serai le plus heureux de si certains auditeurs m'ont connu, m'ont rencontré au cours de cette période, venaient me voir à mon stand et renouer un petit peu avec les souvenirs, parce que j'ai un peu perdu tout le monde de vue depuis 1963. Voilà, ça fait un bail. Voilà, pour me présenter rapidement. Oui. Je peux vous dire que au niveau de l'écriture, l'envie d'écrire est venue un petit peu plus, bien sûr, sur le tard. J'étais passionné par les îles, par l'Océanie, par l'univers des îles. Mes rêves d'îles, je les ai nourris aussi un petit peu à Saint-Afrique, dans une pièce qu'on avait dans la maison familiale et que j'appelais la salle de jeu. Sur le mur de cette pièce, j'avais placardé une carte du monde. C'était le tour du monde en 120 images de l'album du Chocolat Meunier à l'époque. Et j'ai peut-être fait mes plus beaux voyages à l'âge de 9-10 ans sur cette map monde. Et je n'ai eu qu'une envie, après la lecture de cet album, c'était de voyager, d'aller vers un petit peu ces univers différents, étranges, qui m'attiraient. Et dès que j'ai pu, après m'être échappé, après l'adolescence, de l'avoir fait des études notamment dans le secteur aéronautique, j'ai pu m'échapper vers Madagascar, ayant l'opportunité de faire un séjour en coopération. Et là, je dois avouer que j'ai vécu les plus belles années de ma vie. C'était avant que Madagascar connaisse la dictature. Donc voilà, c'était encore un monde magique qui m'attendait outre-mer. Et depuis, je n'ai eu de cesse que d'aller vers les îles, et notamment la Polynésie. Et le déclic d'écriture s'est fait par rapport à la Polynésie.
Est-ce que l'écriture est un besoin pour vous ?
Alors l'écriture est un besoin, oui, il y a des périodes. Alors l'écriture, enfin, en ce qui me concerne, ne se déclenche pas comme ça, là, en fonction de l'envie. Il faut que je ressente le besoin d'exprimer certaines choses, sentimentalement parlant, que ça soit un peu provoqué par un manque affectif, ou que ça soit pour exprimer un petit peu, parfois, quelques révoltes face à l'évolution du monde, face à l'évolution de la société, ou face à la disparition de choses auxquelles j'étais attaché et que je vois disparaître. Voilà, donc mon moteur d'écriture, il est là. Il faut qu'il y ait quelque chose vraiment avec l'affectif. Et le premier roman, Tiki, est né justement d'un manque de Polynésie. C'était en 92, nous rentrions de Polynésie, et là j'ai ressenti un manque. Le monde changeait déjà un petit peu là-bas. On commençait à voir un petit peu des choses se mettre en place qui, moi, me dérangeaient et ne convenaient pas à ma vision que j'avais de la Polynésie et de la Polynésie que j'aimais. Donc nous sommes rentrés, avec dans l'idée peut-être de mettre quelques années entre nous et la Polynésie avant peut-être d'y retourner, mais sans trop savoir si nous y retournerions. Et ce manque de Polynésie m'a donné envie d'écrire. J'avais déjà dans la tête un petit peu l'envie d'écrire un roman qui se situe dans les temps anciens, aux Marquises, avec sur fond de magie, de légende. Et donc je me suis mis à ma table avec ma plume, et sans avoir l'idée au départ de publier un livre. Je l'écrivais d'abord pour moi, pour essayer d'exorciser un petit peu et de compléter ce manque de Polynésie. Et voilà, le livre est né, je l'ai fait lire autour de moi, j'ai eu des encouragements. À partir de ce moment-là, ben, j'ai décidé de le réaliser, de le concrétiser sous forme de bouquin, de livre.
Qu'est-ce qui raconte ce livre ?
Alors, ce livre est sur le thème des premières migrations. Le héros va se poser un petit peu la question de ses origines et d'où pouvait venir son peuple. Il va quitter le personnage principal du livre. Alors, je situe l'histoire vers le 9e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire en pleine décadence de Tiahuanaco. Donc là, nous sommes près du lac Titicaca. Et là, le héros va se poser la question de ses origines. Il va trouver un dessin gravé sur une pierre et ce dessin va lui faire se poser quantité de questions. Il va être initié un peu par un prêtre sorcier qui lui aussi est appelé vers l'endroit où se couche le soleil et qui est le lieu des origines, du moins que les légendes relatent comme étant le point des origines. Et il décide donc de partir à l'aventure et voir s'il ne trouve pas quelque part des traces des terres avec la trace de leur peuple. Donc ils vont rencontrer Rapa Nui, donc l'île de Pâques, où là le prêtre, lui, va effectivement trouver des réponses à certaines de ses questions. Et le jeune héros, lui, va continuer son voyage et qui va le conduire sur les rivages d'Aïtéké, enfin Ivaoa, l'actuel Ivaoa, aux Marquises. Et là, ils vont faire un naufrage, ils vont être faits prisonniers, puisqu'il y a la guerre entre deux tribus, entre deux vallées. Et là, l'histoire, bien évidemment, comme ils vont être prisonniers, il va leur arriver des aventures, ils vont s'intégrer à la population. Et là, effectivement, il va leur arriver des aventures. C'est sur fond de... Il y a beaucoup de magie, le mana est très, très présent. Il y a beaucoup de magie, à la limite du fantastique... Et tout ce qui est rituel, tout ce qui est coutume, j'ai voulu le garder documentaire pour apporter un plus au lecteur par rapport à l'histoire qui, elle, est une pure fiction, bien évidemment.
Tipeee, donc, a été publié en 1994.
Il a été publié en 94, écrit en 93 et publié en 94.
Alors, on va parler un petit peu de vos dernières publications.
Oui.
Il y a entre autres des livres jeunesse, La tortue et l'oiseau, qui est déjà paru, et en préparation, je crois, Les aventures d'un petit dragon dénommé Pétefeu.
Ah, ça, c'est... Oui, ça, c'est dans le projet, là, que j'ai attaqué un petit peu, notamment sur le plan un petit peu dessin. Mais il me reste encore pas mal d'éléments à trouver pour développer l'histoire, oui. Alors ce sera, je pense, un album pour les plus petits. Une petite taupe va trouver, en creusant, va trouver un œuf, une boule étrange, là, qu'elle va déterrer, et puis qu'elle le laisse là. Et puis un jour, elle va revenir, elle va voir, tiens, une coquille vide. Et bien sûr, c'était l'œuf d'un dragon. Et elle va faire la connaissance donc de ce petit dragon. Ils vont se lier d'amitié et là, bien sûr, vont leur arriver des tas d'aventures.
Et alors, La tortue et l'oiseau, vous pouvez nous en parler ?
La tortue et l'oiseau a été édité chez Orphi, un éditeur de La Réunion que j'ai croisé lors de Salon du Livre, notamment au Salon international du livre insulaire à Ouessant, qui regroupe un peu les îles, un peu du monde entier. Hein. Et là, j'avais écrit un petit texte racontant l'histoire de la rencontre entre une petite tortue de mer et un cormoran. Alors, cette histoire est née d'une rencontre que je devais faire avec des élèves, avec des enfants, dans une médiathèque. Et pour cette occasion, j'ai essayé de créer une petite histoire pour les intéresser. C'était une tranche d'âge, on va dire, de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et je me suis dit, bon, parce que j'avais déjà écrit des livres pour enfants qui s'adressaient à une tranche plutôt de 8, 9, 10 ans, voire 11 ans. Et là, pour les plus petits, il fallait que je trouve quelque chose qui les accroche tout en étant quand même un texte qui soit à leur portée. Et donc, j'ai créé un petit peu cette petite histoire que j'ai racontée aux enfants. On a fait un petit peu d'animation autour de cette histoire. Et puis voilà, ce texte, je l'avais gardé un petit peu sous le coude. Et lors de la rencontre avec cet éditeur, ben je lui ai proposé ce petit texte, et qui a eu l'air de bien sûr de lui plaire, et ce qui fait que, et ben voilà, il m'a pris le texte en me disant, ben écoutez, je vais le faire passer en comité de lecture, et on vous rappelle, on vous contacte. Dans les mois qui ont suivi, j'ai reçu un message comme quoi il le retenait, et qu'on allait signer donc le contrat d'édition. Voilà comment c'est mis en place et comment est né cet album de La Tortue et l'Oiseau.
Alors vous faites aussi les illustrations, hein.
Pour La Tortue et l'Oiseau, ce n'est pas moi qui ai fait les illustrations. Comme c'est un éditeur d'outre-mer, il tenait, je le comprends, il tenait à avoir un illustrateur ou une illustratrice, en l'occurrence, d'origine d'outre-mer. Donc l'illustratrice est antillaise, enfin réside aux Antilles. Mais j'ai cru comprendre qu'elle était d'origine réunionnaise. Alors nous ne nous sommes jamais rencontrés, puisque bon, ben voilà, alors l'éditeur est réunionnais, mais ils ont une représentation en métropole. Moi je suis à Toulouse. Et l'illustratrice est aux Antilles. Bon, ça fait un petit peu, c'est le triangle.
Mais sinon, donc, vous avez illustré les livres précédents que vous avez faits.
Les livres précédents, je les ai illustrés, notamment les aventures de Poco. Ce sont les aventures d'un petit hippocampe avec son copain le poulpe. Et ce petit hippocampe, dans le premier épisode, va être pris dans les courants. Et il va s'échouer sur le sable. Bien sûr, il se demande ce qui lui arrive. Là, il voit une lumière éblouissante. Il sent qu'il perd un peu la respiration. Il suffoque et il entend un peu que ce qui lui semble être comme une musique, un son bizarre, mais qui au lieu de lui faire peur, aurait plutôt tendance à l'apaiser. Et là, il va perdre connaissance. Et quand il se réveille, son copain le poulpe est à côté de lui. Il lui dit, mais tu es fou. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens de franchir la frontière qui nous sépare du monde des humains. Et à partir de là, ce petit hippocampe sera obsédé un petit peu par le monde des humains et n'aura de cesse que d'essayer de rencontrer le monde des humains et notamment peut-être retrouver l'enfant, puisque dans l'histoire c'est un enfant qu'il a recueilli et qu'il a remis dans la vague, ce qui lui permet d'avoir été sauvé. Et il n'aura de cesse que d'essayer de rencontrer le monde des humains. Et à partir de là, toutes les aventures qui lui arriveront, il y aura cette notion, soit à travers les légendes, les mythologies, on retrouvera un petit peu ce lien entre ce petit hippocampe et le monde des humains.
Alors, vous publiez aussi 12 histoires racontées sous le vent,
oui,
qui est paru tout récemment, je crois en janvier.
C'est le tout dernier, petit dernier que j'essaie bien sûr de pousser un peu, de lui faire rencontrer le public, de lui faire rencontrer les lecteurs. Alors, 12 histoires à raconter sous le vent, c'est un peu sur le thème du voyage, mais le voyage au sens large. C'est-à-dire qu'il peut être physique, mais il peut être aussi dans le voyage dans la tête. Bien sûr, on y retrouve le monde des îles un petit peu. Il y a quelques anecdotes vécues qui se sont transformées un petit peu en histoire. Il y a un petit peu de magie, voire un peu, je flirte un peu avec le fantastique, notamment sur une histoire qui se déroule à Ouessant. Voilà, on y retrouve la Polynésie, on y retrouve un petit peu tous ces univers que j'aime. Alors, il n'y a pas de lien entre chaque histoire, hein, elles sont totalement indépendantes, mais voilà, il y a plusieurs domaines un petit peu explorés, et en y mettant aussi de l'humour. Certaines histoires sont humoristiques, et on y retrouve de l'aventure, du dépaysement, de l'émotion. Enfin voilà, j'ai essayé de mettre quelques ressentis dans ce livre, mais à travers plusieurs histoires. Donc 12 histoires racontées sous le vent.
Qu'est-ce que vous attendez de la fête du livre en Quai de Sorgue ?
Ben, la fête du livre en Quai de Sorgue, pour moi, est très importante, puisque c'est un retour aux sources. Je reviens à la maison, je retrouve un peu mon enfance, d'autant que les Quais de Sorgue, c'est l'endroit où je jouais, puisque j'habitais une maison tout à côté des quais, même sur les quais, en bord de Sorgue. Donc c'est important pour moi, et puis comme je vous le disais au tout début de la présentation, ce que je souhaiterais, c'est qu'en même temps, en plus de la rencontre avec les lecteurs, bien sûr, puisque c'est ce qui est important quand on présente ces livres, mais que parmi ces lecteurs, je retrouve peut-être des anciens copains d'enfance ou d'adolescence, et qui seront peut-être ou de passage dans la région, ou qui ont encore de la famille dans la région, qui pourraient éventuellement leur signaler voilà, que je suis passé à Sainte-Afrique, et ce qui permettrait peut-être de renouer des liens. Et c'est vrai qu'après toutes ces années, mais je suis comme ça, moi je suis très attaché un petit peu aux racines, et c'est vrai qu'il y a, j'aimerais bien qu'il y ait de nouveau un petit peu voilà, cette rencontre avec le rappel de souvenirs et de choses vécues ensemble. Les années 60, avec tout ce que ça a mené de les surprises parties dans le garage, enfin les grandes parties de rigolade, et voilà, ce serait sympa d'évoquer tout ça avec eux.
Ok, on vient d'entendre là votre minette. qui a miaulé.
Oui, 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 elle est venue me faire un petit coucou. Eh oui.
Bon, je pense qu'elle sera sans doute pas là dimanche 19 mai.
Ah non, elle restera à Toulouse, oui. Oui.
Elle vient de temps en temps sur vos papiers quand vous dessinez.
Ah mais quand j'écris, elle est présente, bien sûr. Elle vient sur les papiers. Il faut la pousser de temps en temps pour pouvoir continuer à écrire et finir l'écriture de la ligne ou du paragraphe. Et même sur l'ordinateur, elle vient, elle saute. Alors ça commence sur mon épaule, puis elle descend sur les genoux et a tendance à vouloir écrire en même temps que moi en posant les pattes sur le clavier. Ouais.
Bah, peut-être qu'un jour vous écrirez un livre sur les chats.
Ben j'y pense, oui, parce que c'est vraiment un monde particulier. C'est superbe, je sais pas. Il y a quelque chose chez les chats qui est particulier, avec des complicités. C'est vrai que j'aime beaucoup les animaux. J'ai eu des chiens. Mais le chat, c'est vraiment particulier. Et puis il y a une complicité. Puis on a l'impression qu'il y a plein de choses qui passent là, ouais. Et on dit que le chat est l'animal un petit peu de prédilection des gens qui écrivent. Alors, bon. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de magique chez le chat.
Eh bien, Christian Serre, merci à vous.
C'est moi qui vous remercie.
On vous retrouve dimanche, donc, à la fête du livre en Quai de Sorgue.
Eh bien, ce sera avec beaucoup, beaucoup de plaisir.
Le Festin des crabes de Christian Serre est un thriller dont l'action se partage entre la Polynésie et la métropole. Envoyé en Polynésie française pour effectuer un reportage sur les gaspillages, les abus, les paradoxes et les associations troubles de la politique locale, un journaliste va mener l'enquête. Très vite, celle-ci l'entraîne sur une affaire qui dépasse largement le cadre de Tahiti. Les événements se précipitent, sa curiosité dérange. Disparition suspecte et menace ne tarde pas à se produire. Extrait.
Perturbé par les derniers événements, Hervé avait pris quelques jours de congé. Cela faisait maintenant une semaine qu'il tentait de faire le vide dans sa tête. Il avait rejoint instinctivement le pays qu'il avait vu naître, comme si le passé pouvait l'aider à effacer le présent. Monté au rocher de Kélus qui dominait la petite ville, il se laissait emporter dans un tourbillon d'images. Tant d'années déjà, Sainte-Afrique. Que de dimanches passés à jouer sur ce rocher aux allures de citadelle. Il revoyait ses parents, son frère. Sa gorge se noua. Une profonde tristesse l'envahit. Il était si seul aujourd'hui. De retrouver le cadre où il avait grandi en nourrissant ses rêves de gosse, avait fait remonter une foule de souvenirs qu'il croyait s'être effacés, pris dans le tourbillon des ans. Mais on n'oublie rien. On se ment souvent, mais on n'oublie jamais. Il respirait les parfums de l'enfance, redécouvrant la maison, l'école, le petit ruisseau où il se souvenait avoir pêché des écrevisses, son pays, sa ville, sa vallée. Il avait envie de tout quitter pour revenir ici, dans ce Sud-Aveyron qu'il avait cru pouvoir quitter pour toujours. Toujours. Le mot lui parut tout à coup stupide, dérisoire. Toujours, comme si les choses, la vie, pouvaient être infinies, figées à jamais. Il se dit qu'il déprimait. Il lui fallait bouger. Il reprit le petit sentier menant à la plateforme supérieure, là où se trouvait le bloc que l'on appelait le fromage. Le rocher de la vieille était toujours là, dressé comme une sentinelle. Il connaissait chaque pierre, chaque marche naturelle de la roche qui permettait l'escalade. Il arriva à la faille qui s'ouvrait, pan de mur éboulé, sur l'oubliette et son étroite ouverture aménagée dans la voûte. Seul vestige du passé et du fier château qui s'était dressé là, rêve de chevaliers, de belles dames, de trésors oubliés. Il admirait le paysage qui s'offrait à lui. Il faisait beau, une belle journée d'automne, parée d'or et de pourpre. Un bruit de caillasse qui dévale une pente le fit se retourner. C'est alors qu'il les vit, deux hommes, l'un tout près, l'autre un peu en retrait, comme pour lui couper le passage et toute possibilité de fuite.
Chaque fois que j'ai affaire aux souris, j'ai envie de donner ma langue au chat. Les souris, vous le savez, je les chéris, je les adore, mais dès que j'avance là, pat, 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 patatras. La dernière en date qui m'est souris, elle était rose comme la fleur du péché. Aussi sec j'y fais de mon pou pourri, miaou, j'y ronronne un couplet bien toussé. Pat, 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 triché. C'est pas sous ma patte. Ah, mais qu'est-ce que j'avais pas fait là? Elle sort ses griffes, ramène pas ta fraise, Ramina, grosse bite. Ramina quoi? Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit pas les pattes fallocates. Et là-dessus, je la revois pas plus tard qu'hier, avec un vieux mat tout vu de gouttière. Patte, 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 tibulaire. Par ce mal rasé, cet affreux miné commence à me miner. Devant mon pipe, il les allonge une à une. Et quand j'ai pif, je miaule sous la lune. J'en perds pas une de leurs charivaris. Bande de pourris, faites vos cochonneries en catimini. Ouch, j'en crache, mais tout se passe. Aussi si je vibre un peu misogyne, vous admettrez que la chose s'explique. Elle me fout le blues avec son blue jean. J'en suis devenu un cas de pathologie. Pat, 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 patini. Chaque fois que j'ai affaire aux souris, j'ai envie de donner ma langue au chat. Les souris, vous le savez, je les chéris, je les adore, mais dès que j'avance là, pat, 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 pat.
Née en région parisienne, Annick Demouzon vit à Moissac dans le Tarn-et-Garonne où elle est orthophoniste. Plusieurs de ses nouvelles ont été publiées en revue ou anthologie. Quand elle n'écrit pas, elle s'adonne aux joies de la musique, du chant, de la peinture, de la photo et de la marche, tout aussi essentielles à ses yeux. Lauréate d'une cinquantaine de concours depuis 2005, finaliste du concours Arfang en 2008 et du prix Prométhée en 2010, son recueil « À l'ombre des grands bois » publié aux éditions du Rocher a été distingué cette année par le prix Prométhée. Elle sera présente à la fête du livre en quai de Sorgue. Voici une nouvelle de Annick Demouzon.
La visite. Ils sont venus ensemble. Toc toc. Et le nez dans l'ouverture. On peut ? Bien sûr qu'ils peuvent, mais entrez donc. Ils sont de la famille tout de même, alors. À la queue leu-leu, l'un après l'autre, ils se sont faufilés par la porte entrebâillée, qu'ils se faisaient passer de main en main, à la manière d'un baiser de paix, avec une sorte de connivence fraternelle qu'on devinait, normale en somme. Ils la tenaient ouverte devant l'autre, d'un geste moelleux et pesé, et une gentillesse palpable, qui tous les rassuraient. Un jour comme aujourd'hui. Le dernier a refermé la porte, sans bruit. Dans l'office, cuisait la brioche. Sa bonne odeur chaude et moelleuse leur chatouillait les narines et leur racontait des histoires d'autrefois, quand ils étaient mômes. Qui sait qui l'aura préparé, celle-là ? Avant, c'était la mère, mais aujourd'hui ? Vite, ils ont écarté cette pensée. Tout de même, on n'est pas là pour ça. Alors, sans même se donner la peine de gratter au panneau de bois, ils ont poussé l'autre porte, celle du fond, où la peinture grise, depuis si longtemps, continue de s'écailler. Personne n'aura donc l'idée de la repeindre,
Ça faisait des années qu'il en parlait, le père. Mais maintenant, bah, après tout. Le premier qui est entré n'a d'abord vu que la fenêtre. Une fenêtre bleue, d'un beau bleu trouble à la lumière pauvre, avec, dessus, la trace d'un voile gris, mais émouvante. Une lumière de silence. Pourtant, on n'avait pas tiré les volets, mais le vieil orme, le seul du coin à être réchappé de la grande épidémie, on se demande comment, projetait une ombre bienfaisante et sensible. Une ombre vivante qui pétillait. Dehors, il faisait un de ces cagnards. Ici, au moins, il serait au frais. C'est déjà ça. Machinalement, il desserre sa cravate. Il n'a guère l'habitude d'en porter et avec cette touffeur. Pas le temps idéal, pour sûr, qu'il se dit. Mais il n'y a point le choix. Le second a reconnu aussitôt l'odeur de moisi et de clos. Cette odeur d'ici, la même depuis toujours, et ce drôle de parfum âcre aussi, qu'il n'a jamais trop su identifier. Un parfum sans nom, mais qui lui revient. Et avec des souvenirs d'enfance en ribambelle qui le submergent. Il se revoit quand il se faufilait en douce pour aller fouiller dans l'armoire, tâter les piles de linge, ouvrir les tiroirs. Qu'il n'aille pas grincer surtout. Des trésors, il aurait pu en trouver. Des trésors, il y en a partout. Mais non. La dernière, c'est la couleur des murs qu'elle avait oubliée, mais elle retrouve comme un baume familier la douceur dorée des vieux meubles. La mère les frottait tant et plus, elle n'arrêtait pas. « Tu ferais mieux de m'aider au lieu de bâiller aux corneilles. C'est pas la peine d'avoir une fille à la maison pour... » Elle a glissé en catimini la main vers l'armoire et son lit s'est troublant, en caresse l'arrondi. « Oui, c'est bien ça. Quelque chose de très fort l'émeut. » Mais soudain, elle ne se rappelle plus le goût de ces exhalaisons si nombreuses qui s'échappaient du bois. Elle y mettait quoi, la mère, pour que ça sente tant de choses? Des odeurs mêlées, senteurs de la cire, sûre, et quoi d'autre? La naphtaline, peut-être, à cause des mythes, et la lavande qu'elle glissait en bouquet dans les draps, pour le propre. Et aussi, déjà gamine, elle se posait la question. Elle n'a jamais su. Alors maintenant, pourtant elle cherche encore un peu, voudrait se souvenir, reconstruire, remonter le temps. Mais non, rien. C'est si loin. Les trois enfants se sont serrés l'un contre l'autre, au plus près, par habitude, sans un mot, sans se voir, sans même se penser. Chacun ici, pour soi, chacun seul. Derrière eux, comme eux, leurs conjoints, les pièces rapportées, se sont glissés dans la pièce et ils se tiennent de chaque côté de la porte, écrasés dans l'ombre pour se faire oublier. Mais pour eux, rien à se raconter, rien à agripper, rien à recevoir que la chaleur du dehors qui voudrait entrer et ces effluves écœurantes de tout et de n'importe quoi qu'ils ne savent trop identifier mais qui les dégoûtent. Une odeur de vieillerie. Le dernier a pénétré, a tiré la porte derrière lui. Les autres ont tourné la tête vers ce bruit doux du bois poussé sur le bâti. Et, enfin, il la voit, elle, la mère. En fait, ils n'ont pas très envie de la voir. Ça les gêne et ils se sentent coupables. Il y a si longtemps qu'ils ne sont pas venus. Et ils se trouvent un peu bêtes aussi, de rester là, plantés droit debout comme des nigauds, à ne rien faire que la regarder. « Remue-toi donc un peu, t'as l'air de quoi, jouer le timide. Viens plutôt me faire la bise. » Elle a raison, pour sûr. C'est pas elle qui aurait jamais fait la godiche. Elle, elle a toujours eu du caractère, même genaude. Et à la ferme de son père, elle faisait le travail d'un homme, malgré sa petite taille. Et les Allemands, faut voir comment elle les a tenus quand ils l'ont occupée, sa ferme. Ils n'en faisaient pas ce qu'ils voulaient, d'elle. Personne. La sensiblerie, ça n'a jamais été trop son fort. Le premier s'avance. « Tu aurais pu venir me voir avant ?» qu'elle lui jette. « Mais, maman ?» Et lui, il pique du nez en rougissant, comme il faisait déjà quand il était gamin. « Oui, bien sûr, il sait. J'aurais pu. J'aurais dû avant, qu'il se dit. Mais la vie, ça vous prend si vite, ça vous emporte sans qu'on ait le temps de rien, alors... » Un jour, d'un coup, vous voilà de retour, sans même y avoir songé. Et sans vraiment savoir, du reste, ni comment, ni pourquoi. C'est pas de la sorte qu'on aurait voulu, mais... Il a fait un pas vers elle en murmurant « Maman ». La vieille n'a rien dit. Qu'est-ce qu'elle pense de ça, elle? Et que pourrait-elle dire? Qu'ils lui ont manqué très fort, tous, autant qu'ils sont. Et même leur moitié, elle les aime bien. Et leurs enfants à eux aussi, ses petits-enfants à elle. Et qu'elle était bien seule ici, pourtant, depuis le départ du vieux. À guetter pour rien le facteur ou à décrocher tout soudain le téléphone, comme si... Ah, C'est pas lui qu'a sonné, elle avait cru. Un oiseau alors, peut-être bien. Il y en a qu'ont de bizarres cris. Et à espérer un signe de leur présence, à l'appeler, à surveiller, des fois qu'ils viennent la voir. Et aujourd'hui, ils sont là, ensemble, comme autrefois. Même les drôles qui sont dehors à jouer dans la cour, au bon air de la campagne. Ils ont raison, ça fait du bien. Ils viendront la voir après. Elle leur en veut pas, allez, c'est ça la vie, elle sait. Du moment qu'ils sont là aujourd'hui. Au fond, ce n'est pas vraiment de leur faute, à eux. Ni de la sienne, bien sûr. Mais est-ce qu'on a le vrai choix de son existence sur cette terre? Tout de même, elle leur tend les bras. Des vieux bras tout fripés. Et leur sourit. Un bon sourire. Ça leur fait mal de le voir. Venez donc, approchez-vous que je vous embrasse. Alors, le fils, ton entreprise, elle fonctionne bien comme tu voulais? Et toi, dis-moi, la fille, ton patron, il t'embête moins désormais. Et le petiot? Et le petiot, ta femme, elle avait tant le besoin de vivre à la ville. Elle s'y plaît au moins, parce que... Mais prenez donc une chaise et asseyez-vous près de moi, que je la sente votre chaleur. La jeunesse, ça sent si fort la vie. On va causer un peu. Il y a la brioche qui est prête à côté, vous qui l'avez toujours aimée. Mais eux, ils sont là, raides debout, tout empesés, à point savoir se tenir et à s'encaler d'un pied sur l'autre, comme les morveux qu'ils sont restés, finalement. Et c'est l'aîné, le premier, qui réagit. L'aîné, forcément, il a des devoirs. Il a fait « en se raclant très fort la gorge. Il s'est avancé d'un pas. Il marmotte « Maman ?» Il allait dire autre chose. Mais sa sœur, à côté, elle lui flanque un coup de coude dans les côtes avec un œil mauvais. « Allons, qu'est-ce que tu vas t'en aller rajouter? C'est point le moment !» Alors il se tait. Ça lui pique un peu la gorge et il se dit qu'il a peut-être bien attrapé une angine. C'est rêche au fond et ça serre. Du mal à avaler, comme une boule. Il jette un œil autour de lui pour voir, ne voit rien, à cause de l'orme qui lui tue la lumière. Et puis si, il attrape la branche desséchée qui trempait dans un vase du buis de ce printemps et, dans le vide, il fait le signe de croix sur la mer. Tout de même, qu'il se dit, j'aurais dû venir avant.
L'association Arts et Livres vous présente la fête du livre en quai de Sorgue.
Interviews et lectures de textes sur Radio Saint-Aff.
La fête du livre en quai de Sorgue, c'est dimanche. À partir de 10h.